Radio Okapi, grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Okende Senga Chérubin. Il est président du Front Social des Indépendants Républicains. C'est un parti politique de la majorité. Il est en plus de cela administrateur, directeur technique des lignes aériennes congolaises. Mais en ce moment, il assume l'intérim de l'administrateur directeur général. Monsieur Okende, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour.
Avec vous, dans notre entretien, on parlera de votre personne. On va vous faire découvrir auprès des auditeurs de Radio Okapi. On parlera de Chérubin Okende, de la société civile à la politique. Aujourd'hui, vous êtes à la tête des lignes aériennes congolaises. On va en parler dans cet entretien. Mais nous analyserons aussi l'actualité sur la crise politique que traverse le pays en ce moment. On va commencer par une petite biographie de vous. Vous êtes né en 1961.
Oui, justement. Le 5 octobre 1961 à Kindu.
Et c'est là où vous grandissez, c'est là où vous passez votre enfance?
Oui, je fais mes études primaires à l'école Saint-Jean, une école catholique, et je les poursuis au collège du Saint-Esprit, une école de frères maristes, où je décroche mon diplôme en 1980, un diplôme d'État. J'entreprends
les
études. Section scientifique, biochimie. J'entreprends des études universitaires, donc je suis nanti de 2 diplômes d'université en tant que statisticien et aussi en tant que juriste.
Pourquoi suis... 2 diplômes?
Ben, c'est la soif.
Le premier diplôme que vous avez eu ne suffisait pas, il fallait approfondir vos connaissances.
La soif d'apprendre, et c'est toujours que l'on en prend. Et maintenant, je suis même engagé dans le cycle doctoral en droit à l'université de Kinshasa. Donc, tant qu'on vivra, on aura toujours cette soif de s'améliorer et de faire davantage pour son pays.
Quels souvenirs vous gardez de votre enfance?
Ouf, beaucoup de souvenirs, hein, parce que vous savez, il est très difficile de parler de soi-même. Comme bon souvenir, je suis jusqu'à aujourd'hui, parce que mon père est encore en vie. Chérubin, je suis enfant chéri de mon père et je porte même son nom. Il m'a fait grandir dans une famille nombreuse, mais en tant que... un enfant quand même sur qui il portait beaucoup d'attention, cela m'a toujours marqué. Mais il y a aussi un mauvais souvenir par rapport à mes parents. Ils ont eu à divorcer lorsque j'avais 7 ou 8 ans.
Cela
m'a beaucoup affecté. Donc le manque de ma mère, mais est-il que nous avons eu l'épouse de notre papa qui nous a adoptés comme ses propres enfants. Donc on n'a pas eu beaucoup ce mal-là, mais j'ai toujours senti le vide de ma mère. Paix à son âme, parce qu'elle est déjà décédée.
Alors, Chérubin Okende, on vous a connu dans la société civile. On a commencé à parler de vous lorsque vous étiez dans la société civile. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans ce mouvement?
J'entame ma vie professionnelle en 1989 à l'Office congolais de contrôle. Et là, je me sens... cette vocation de pouvoir défendre ce qu'on peut appeler les opprimés. Et avec d'autres jeunes cadres, nous avons créé un syndicat, le syndicat autonome des travailleurs de l'Office congolais de contrôle, parce que nous nous sommes dit, avec l'ouverture qui est intervenue après 1990, là où le pays s'est réengagé dans le pluralisme syndical, que nous ne devions pas nous affilier dans d'autres syndicats. Nous devrions assumer, moi-même connaissant le droit, nous devrions assumer notre destin en tant que travailleurs, parce que il est dit dans la législation que ce sont les travailleurs qui ont la latitude de se regrouper, de se réunir et de créer leur syndicat en vue de défendre leurs droits et promouvoir leur bien-être social. Donc, nous avons créé le syndicat autonome des travailleurs de l'Office congolais de contrôle. À ce moment-là, c'était l'Office zaïrois de contrôle. Et cela m'a ouvert tout naturellement la voie de la société civile, parce que les syndicats relèvent de la société civile. Et mon cheminement, je suis arrivé à être élu vice-président national de la société civile du Congo, ce qui m'ouvrira tout naturellement lorsque nous devrions aller au dialogue intercongolais en tant que délégué de la société civile émanant des syndicats, la porte à ce forum politique.
Alors, votre passage dans la société civile, comment vous l'avez jugé?
Très constructif, j'ai beaucoup appris dans la société civile, surtout le sens du service, hein, le sens du devoir aussi. Dans la société civile, on promouvait aussi le dialogue, on promouvait aussi le débat. Donc il fallait échanger, il n'y avait pas de dictat dans la société civile, avec son président d'ailleurs, ici j'en profite pour saluer Modeste Bahati qui fut mon président, il y avait toujours un échange, il y avait toujours le débat et chacun avait toujours un mot à placer lorsque nous devrions prendre des décisions. Cela m'avait beaucoup marqué dans mon passage dans la société civile.
Et comment vous répondez à ceux qui disent qu'il n'existe pas de société civile au Congo? C'est toujours une société civile inféodée, soit au pouvoir, soit à l'opposition.
Bon, ça dépend de chaque acteur de la société civile et aussi de la trame de l'organisation dans laquelle cet acteur-là évolue. Nous, en tout cas, dans le syndicat, avec des grands comme Henri Catelay, Bouinsa et j'en passe, on ne pouvait pas faire ce jeu de chauve-souris, hein, être dans la politique et dans la société civile, tellement que la traçabilité de du syndicat était nette. Mais je crois que tout le monde provient de la société civile. C'est comme nous aujourd'hui, vous m'avez présenté comme président de parti politique. Lorsque je me suis senti de la vocation de faire de la politique, je n'ai pas voulu continuer dans cet amalgame, donc être à la fois société civile et acteur politique.
Est-ce que la société civile, c'est un tremplin pour faire de la politique? Parce qu'on constate que plusieurs acteurs de la société civile sont devenus très actifs en politique. Comment on peut expliquer ce phénomène?
La société civile est la pépinière même de la société. On ne peut pas dire forcément tremplin. Il y a d'autres qui ont fait la société civile, bien avant nous, mais bon, peut-être qu'ils ne se sont pas sentis cette vocation de faire la politique.
Mais la plupart se retrouvent en politique aujourd'hui.
Oui, d'autres aussi, ben, ma foi, chacun a son chemin. Hein, on peut entreprendre des actions politiques, peut-être qu'on ne sera pas président de parti politique comme chez Ruben Okende. Je n'en suis pas prétentieux, mais est-il que ce que je veux souligner, que tout le monde émane de la société civile avant d'être de la société politique ou de la société savante et que sais-je encore.
Alors en 2003, vous avez été désigné député sur la liste de la société civile.
Oui, avec la qualité de délégué de la société civile au dialogue intercongolais, là également par la pertinence de ma modeste contribution, de mes modestes interventions, j'ai été retenu par ma composante pour participer à tous les formats réduits de la société civile jusqu'à l'accouchement difficile, très laborieux de l'accord global et inclusif. Et vous savez également que tous les délégués à la société civile étaient de fait membres du Parlement sud-guinéris qui est né du dialogue intercongolais, donc le Parlement de transition. Là aussi, donc, j'ai vu une porte politique s'ouvrir devant moi et je me suis assumé. Je pense que c'est à partir de cette expérience du Parlement de transition que j'avais finalement senti en moi la vocation de faire de la politique active en créant le parti avec des amis.
Avant de parler de votre parti politique, vous avez renoncé à votre fonction de député.
Oui, après ce parcours, il est arrivé le moment où chaque composante devrait présenter de candidats mandataires, parce que vous savez, pendant la transition, c'était le fameux partage équitable et équilibré de pouvoir. J'en suis également bénéficiaire en tant que mandataire au fonds de promotion de l'industrie, et c'est là que j'ai commencé une nouvelle expérience en tant qu'administrateur de société.
Voilà, après les fonds de promotion, c'est en ce moment-là que vous avez pensé créer un parti politique ou bien le parti existait déjà lorsque vous étiez au fonds de promotion pour l'industrie?
Non, le parti n'existait pas encore parce que le parti est né en 2006 à l'orée des élections. Nous avions voulu, les amis et moi-même, rester civilistes, donc dans la société civile, en créant le Front Social des Indépendants, qui était un regroupement des organisations à la base, donc issus de la société civile, dans lequel on trouvait des représentants de syndicats, des représentants d'autres associations émanant de la société civile. Mais malheureusement pour nous, la loi électorale aura été très rigide pour ne pas favoriser l'éclosion de ONG dans leur participation aux jeux démocratiques, aux élections. Alors nous avons dû réfléchir, nous avons pensé qu'il était facile de créer un parti politique et comme nous nous engageons résolument dans des activités proprement politiques, il fallait que nous quittions cette tauge de société civile en embrassant directement la politique. C'est pour cela qu'avec des amis, nous avions décidé de créer notre parti politique, le Front Social des Indépendants Républicains, qui n'est plus un regroupement des associations à la base, donc regroupement des associations de la société civile.
Une question de curiosité, pourquoi vous vous êtes rangé du côté de la majorité ?
Bon, c'est question de conviction. Nous avons évolué avec Joseph Kabila lorsqu'il a pris le pouvoir en 2001. Nous avons vu son discours que nous avons disséqué, nous étions très critiques en tant que société civile. Nous avons quand même vu qu'il a tenu parole. Il fera tout pour amener la paix, la réunification dans notre pays. C'est ce qui fut fait. Donc c'est en vertu
mais
de cela d'ailleurs.
Mais il y avait toujours la guerre à l'Est.
En vertu de cela d'ailleurs, enfin, le dialogue intercongolais était tenu, notamment pour mettre fin à la guerre, à la partition de fait de notre pays. Et nous avons vu son sens de la parole et de l'humilité surtout, que le Congo, après de grandes fougues d'hommes politiques de la trempe du maréchal Mobutu, il fallait quand même un autre leadership beaucoup plus réfléchi, peu impétueux et volcanique, pour permettre à ce qu'avec humilité, on puisse commettre notre pays dans un destin renouvelé. C'est cette conviction qui nous a habités pour que nous puissions être parmi les partis qui ont créé l'alliance de la majorité présidentielle. Les premiers signataires, en tout cas, nous sommes parmi eux.
Et en 2006, vous êtes présenté comme candidat aux législatives.
Non, personnellement, je ne m'étais pas présenté. Mais
vous avez aligné des candidats.
Le parti avait aligné plus de 100 candidats, mais malheureusement la moisson n'aura pas été abondante. Nous nous en étions sortis avec un seul représentant au Parlement, donc deux représentants au Parlement, dont un à l'Assemblée nationale et un autre au Sénat.
En 2011, est-ce que vous avez aligné aussi des candidats?
Oui, 25 candidats sur différentes circonscriptions du pays, mais nous nous en sommes sortis encore avec un député. Nous sommes donc présents très modestement.
Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est question aussi de stratégie et surtout de...
Manque de stratégie au sein du parti?
Oui, au sein du parti et question de préparation aussi, parce que nous n'étions pas suffisamment préparés, nous n'avions pas suffisamment de moyens pour assumer les exigences ou les contraintes de campagne électorale.
Les membres ne les cotisent pas?
Ils cotisent parce que vous savez... Avec 2006, nous avons été parents pauvres, hein, vous comprenez. Nous n'avons pas eu la chance de placer des cadres dans des postes de responsabilité pour que, en retour, dans leur rémunération, ils puissent contribuer pour le parti. Nous vivons simplement de maigres contributions de nos membres qui, ma foi, avec la précarité qui est encore la nôtre dans le pays, il ne faut pas espérer avoir 100 dollars, 1000 dollars comme cotisation mensuelle par individu. Donc c'est de modiques sommes en francs congolais que nous essayons de glaner en tant que comme cotisation et c'est ce qui permet au parti de pouvoir fonctionner.
Mais on n'entend pas trop parler de ce parti chez Ruben Okindi.
Bon, nous sommes préoccupés par cela, nous sommes vraiment préoccupés avec les cadres du parti. D'ailleurs, j'ai fait un rappel de troupes en disant aux cadres du parti qui sont valables, hein, on en a beaucoup, de très bonnes
mais
factures.
Mais lorsqu'on parle du Front Social des Indépendants Républicains, on voit chez Ruben Okindi, les autres, on ne connaît pas.
Je pense que mes camarades sont en train de vous suivre et c'était le credo que j'ai entonné avec eux. Le parti ne doit pas se réduire au niveau d'un individu. Fini le temps de père fondateur, non, nous devons tous mettre la main à la pâte et tous ceux qui se sentent de la vocation d'évoluer dans notre parti, ils doivent considérer ce parti-là comme leur appartenant, c'est pas un parti de chez Ruben Okindi. Ainsi, nous ferons de notre parti un parti fort, un parti avec lequel il faudra compter dans l'avenir. Et je pense que tous les compatriotes qui sont en train de nous suivre, je fais pas de la publicité, mais il faut voir l'avenir du Congo plutôt que gérer tout dans le présent.
C'est vous qui avez fondé ce parti ou bien vous êtes cofondateur du parti?
Cofondateur du parti, et je ne suis pas seul. J'ai des amis avec qui nous avions décidé de prendre, enfin, nous avons pris cette décision de créer le parti politique.
Chérubin Okende, vous êtes cadre de la majorité. Quel bilan vous faites de la législature qui vient de s'achever, vous, en tant que membre de la majorité?
Eh bien, madame, nous risquons d'agir comme la femme de Lot qui regarde derrière, et on lui avait dit de ne pas regarder derrière. Le risque, c'est qu'elle s'est transformée.
C'est juste un bilan comme pour améliorer l'avenir.
Aujourd'hui, notre majorité a été reconquise. Je pense que l'essentiel, après la campagne électorale qui a eu de temps très fort, ce sont les perspectives d'avenir. Et la majorité, aujourd'hui, est tournée vers la révolution de la modernité, la reconstruction de notre pays, et aussi beaucoup d'efforts pour sustenter le social de la population. En termes de bilan, si il y a eu début de la reconstruction du pays, s'il y a eu entame de la révolution de la modernité, mais hélas, sur le plan social, même notre autorité morale lors de ses missions d'itinérance à l'intérieur du pays, à l'écoute du peuple congolais, à l'occasion de la campagne électorale, il a eu à marquer d'une pierre très solide qu'il y a beaucoup de défis, notamment du point de vue du social, qu'il faut absolument relever.
Alors, puisque nous sommes déjà dans l'actualité, il y a une crise dans le pays. Il y a l'UDPS qui ne reconnaît pas le président Joseph Kabila comme président de la République. Pour eux, c'est Étienne Tshisekedi qui a remporté ces élections. Comment vous analysez cette crise dans le pays?
Bon, il y a une crise réelle, mais il y a aussi une autre crise artificielle. Lorsque vous parlez de l'UDPS et son président, que je respecte...
L'UDPS est allié, voilà.
Que je respecte du reste, le patriarche Tshisekedi, c'est un homme politique de grande valeur que notre génération respecte. Mais il y a quand même beaucoup de contradictions dans ses prises de position. De prime abord, il s'était autoproclamé président de la République avant même qu'il y ait des élections. C'est cette rigidité qui fait en sorte qu'aujourd'hui l'UDPS devient une machine à gaspiller les énergies et les intelligences de tous les cadres qui sont là-dedans, même certains jeunes, des amis que nous avons là-bas, des garçons de très bonne facture. Mais finalement, cette rigidité ne leur permet pas de participer à la gouvernance de la République, pendant que cette fois-ci, ils sont entrés dans les institutions par la grande porte. Et c'est ce qui me fait dire que très souvent, l'UDPS et Étienne Tshisekedi se commettent à des rendez-vous manqués inutilement au lieu de servir résolument le peuple. Cela reflète donc le caractère artificiel d'une crise qu'ils sont en train d'entretenir inutilement. Il faut les encourager.
Est-ce que vous ne craignez pas que cette crise puisse vous empêcher de bien gouverner ou de bien gérer le pays?
Tout dépend, et c'est là qu'il y a aussi un autre fond de crise réelle, parce que notre processus, tout le monde l'a reconnu, en commençant par le président de la République et en passant aussi par ma famille politique, la majorité présidentielle, que notre processus électoral était émaillé d'irrégularités. Lorsque cela est reconnu, nous devons avoir la capacité de transcendance pour dire, bon, écoutez, c'est notre propre processus, ne jetons pas tout le discrédit sur le peuple qui est allé dignement aux élections, ne jetons pas non plus le discrédit sur le pays, essayons de faire ce qui est en mesure d'être fait, parce que ici je ne dis pas que, je n'atteste pas ou je n'avalise pas les allégations de ceux qui disent, qui réduisent toutes les irrégularités en termes de tricherie, en affublant une seule famille politique, non, des irrégularités, il y en a eu beaucoup,
qui étaient beaucoup
des
plus
auteurs,
du côté de la majorité, semble-t-il.
Les auteurs se comptent dans toutes les familles politiques.
Beaucoup plus du côté de votre famille politique.
Dans la violence et le trouble de la quiétude des électeurs, c'est dans l'opposition que cela se compte. Et bon, voilà.
Donc, des bulletins couchés à l'avance?
Il y a, non, bon, je crois que ceux qui ont ces allégations, ils ont droit de pouvoir les émettre, mais est-il qu'ils doivent exciper de preuves de leurs allégations?
En 2016, vous allez vous présenter? Vous serez candidat?
Je suis en train de me préparer résolument pour cela, madame.
Chérubin Okende, vous êtes aussi administrateur, directeur technique des lignes aériennes congolaises, mais vous assumez l'intérim de l'administrateur, directeur général. Comment se portent les lignes aériennes congolaises?
En tout cas, je vais paraphraser le président Joseph Kabila. en disant qu'aujourd'hui, les lignes aériennes congolaises se portent relativement mieux qu'il y a 6 mois, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 4 ans, qu'il y a 10 ans.
Qu'est-ce qui a évolué?
Ce qui a évolué, c'est que d'abord, hein, si je peux faire brièvement les états des lieux, c'est une compagnie qui a connu des moments très favorables de prospérité parce qu'elle est créée depuis 1961 et je pense la décennie 60 et 70, c'était des moments très forts de cette compagnie, mais à partir de 1978, la chute aux enfers a commencé par des décisions, excusez-moi les termes qui peut être fort, irresponsable du pouvoir politique de l'époque, qui a eu à aliéner l'outil de travail et à laisser pourrir la situation jusqu'à ce que le personnel a passé plus de 200 mois d'arriéré de salaire. La société elle-même s'est retrouvée en état de cessation de paiement et nous avons hérité d'une dette sociale de plus de 132 millions de dollars. Beaucoup de partenaires que nous approchons qui sont bien intéressés par les atouts de la compagnie aérienne nationale, mais lorsqu'ils voient l'ardoise de la dette, du passif de la compagnie, ils sont souvent découragés de pouvoir
évoluer. En 5 ans, c'était difficile de pouvoir élever cette entreprise.
Notre conseil d'administration y est depuis 4 ans. Donc depuis 2008.
Quand je parle 5 ans, je vois la majorité.
Bon, écoutez,
le gouvernement.
Vous m'avez posé la question en tant que mandataire. Donc je dois répondre cette fois-ci, non dans la grande famille politique de la majorité, mais ici en tant que mandataire, donc gestionnaire d'une entreprise, et je dois rendre compte hein, par rapport à cela. En toute honnêteté, du reste, la situation que nous avions trouvée était catastrophique. Tous les signaux d'une société ou d'une compagnie en banqueroute étaient réunis. Il fallait essayer de stabiliser la situation parce que dans cette compagnie, de tensions sociales étaient intempestives hein, à tout moment. Nous avons pensé que le dialogue social avec le personnel et les syndicats était la trame hein, de toute action, de bonne volonté. Nous avons trouvé beaucoup de dettes, mais nous avons aussi développé la politique d'accords commerciaux avec ceux qui ont, certaines compagnies qui ont l'outil de travail pour que nous signions ces accords et que nous puissions essayer de générer quelques royalties, donc quelques revenus. Et cela nous a permis, un tant soit peu, hein, de fonctionner et de commencer à payer quelque chose à notre personnel pour assurer cette paix sociale. Mais c'est peu, c'est vraiment peu par rapport à l'ampleur de besoins. Et courageusement, nous avons attaqué le taureau par le corne en lançant un dialogue direct avec les syndicats pour la résolution de la dette sociale. Et qu'il plaise à Dieu que notre plan hein, d'assainissement du personnel soit appliqué. Et déjà la semaine prochaine, madame, vous pourrez être invitée aux lignes aériennes congolaises pour une cérémonie de départ à la retraite. Nous avons un personnel qui est expérimenté, mais qui a quand même pris de l'âge. 75% du personnel de la compagnie nationale sont éligibles à la retraite.
Il
faut renouveler. C'était ça vraiment la plus grande pesanteur pour la relance de la compagnie. Si nous réussissons ce cap, il y a faute à espérer que nous puissions vous redonner une compagnie aérienne digne de la République démocratique du Congo dans ses ambitions de grandeur.
Ça pourrait prendre combien de temps?
Je ne sais pas être fixé hein, par rapport au temps, mais c'est une vision qui peut se matérialiser le plus rapidement possible parce que la plus grande pesanteur, c'est la dette sociale.
Alors, si je ne me trompe pas, la compagnie s'était dotée d'un avion il n'y a pas très longtemps.
Effectivement, oui.
Cet avion est devenu quoi?
Voilà, c'est
toujours
d'ailleurs
cloué au sol.
C'est d'ailleurs à l'actif du conseil d'administration, le nôtre. Nous l'avons acquis sur fonds propres. Avec des initiatives que nous avons lancées, de peu de revenus que nous avions générés ça et là, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas être une compagnie nationale sans avions, sans outils de travail. Il faut donc consentir beaucoup de sacrifices pour que nous ayons l'outil de travail. Et là, je salue aussi l'esprit d'abnégation du personnel de l'AC qui avait compris la sincérité de notre message et puis nous a accompagnés pour cela. Cet avion est techniquement au point. Techniquement opérationnel, mais ma foi, notre malheur, c'est le fond de roulement. Mais nous sommes en train de nous y employer, c'est question de jours ou de semaines, nous allons reprendre cette exploitation. Un autre handicap par rapport à cet avion, c'est l'équipage. nous avions des pilotes, nous avions formé des grands pilotes qui font autorité tant dans le pays que dans le monde. Mais malheureusement, lorsque la compagnie est entrée dans une phase désastreuse de misère, bon, beaucoup ont préféré abandonner la compagnie mère pour aller dans le privé avec des conditions autrement beaucoup plus favorables que celles de la compagnie nationale. Des fois, nous sommes obligés de prendre des équipages expatriés pour essayer de fonctionner. Mais cela ne nous décourage pas. Notre détermination, c'est d'attaquer le taureau par les cornes. D'ici là, peut-être que nous serons en mesure de satisfaire le peuple congolais. Nous résistons à la disparition de la compagnie nationale parce que nous croyons qu'il est légitime, il est du droit du peuple congolais d'avoir sa compagnie, et avec la grâce de Dieu, nous allons relever ce défi pour vous redonner une grande compagnie au cœur de l'Afrique.
Et donc, toutes ces personnes qui pensent que la compagnie va disparaître un de ces quatre matins, elles se trompent.
Oui, en tout cas, ces personnes-là ont à déchanter parce qu'en fait, c'est depuis des décennies qu'ils ont des privés. Même certains opérateurs politiques ont travaillé quant à la disparition de la compagnie nationale. Vous voyez le foisonnement de compagnies privées incapables du reste de couvrir la demande. Leur stratégie était de fragiliser la compagnie nationale pour prendre sa place. D'autres ont fait même des tentatives de spoliation de biens de la compagnie aérienne nationale avec la complicité de certains opérateurs politiques. Ma foi, nous résistons et je pense que avec la volonté du garant de la nation, nous allons redonner au pays une grande compagnie nationale. N'eût été cette volonté, en tout cas aujourd'hui, les lignes aériennes congolaises appartiendraient au calende grec.
Chérubin Okende, vous arrive d'écouter la musique de temps en temps?
Oui, de temps en temps, oui.
Quel genre de musique vous intéresse ou que vous aimez bien écouter?
La rumba congolaise. Mm-hmm. Et puis, je suis de la génération de Bana Molokai. Donc, la musique de Papa Wemba nous a bercés dans notre tendre jeunesse, dans notre puberté. Donc, c'est avec nostalgie que nous écoutons cela, sans oublier Zaïko, mm-hmm. Sans oublier Kofi. Bon, en fait, ils sont nombreux. Pour la nouvelle génération, il y a Ferré, Gola, Fali Ipupa, qui produisent une musique de très bonne facture, mais je devrais aussi rendre hommage à Franco et pourquoi pas à Taboulay.
Alors si je vous demandais de me donner le titre d'une chanson que vous écoutez très souvent, que vous aimez, que vous adorez.
Excusez-moi, bon, une chanson, je pense à une chanson qu'aime beaucoup mon épouse. Coucou.
De Kofi Olomide.
Voilà.
On fera plaisir à votre épouse. Donc, c'est une dédicace spéciale à Madame Okende.
C'est très gentil de votre part.
J'espère qu'elle aussi en ce moment.
Il y a dans mon corps un trou qui s'appelle l'amour. Je le plains, il a pris un train de retard. Tchatcho, qui va plus, on a eu mon lézonda.
Il est moyo comme volume, maman. Et puis sa cause à la moine à tout banger. Il est moyo comme volume, maman. No.
Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Radio Okapi fête son 10e anniversaire. Vous êtes parmi les invités qui répondent souvent aux invitations de Radio Okapi. Comment vous appréciez le travail qu'a Radio Okapi?
Un travail de très bonne facture, une communication de proximité qui permet aux Congolais d'avoir l'information en temps réel. Et je pense que votre radio, donc la Radio Okapi, surtout qu'elle est dénommée Okapi, Okapi, c'est cette espèce animale qui ne se retrouve qu'au Congo. Donc, c'est une originalité congolaise. Je pense que Radio Okapi fait la fierté et le bonheur des auditeurs de la République démocratique du Congo. Coup de chapeau, vous avez fait du bon travail. Qu'il plaise à Dieu de vous donner longévité.
Chérubin Okende, je vous remercie.
Je vous en prie, madame.
Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Chérubin Okende Senga. Il est président du Front Social des Indépendants Républicains. C'est un parti de la majorité. Il est aussi administrateur, directeur technique des lignes aériennes congolaises. Mais actuellement, il assume l'intérim de l'administrateur directeur général. Merci à Willem Lungamba qui est à la technique au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.